BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est pile 19h sur BFM Business. Comme quoi tout arrive, évidemment. C'est la deuxième heure de Good Evening. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Beaucoup de choses ce soir encore, à commencer par cette question. Est-ce que cette fois, c'est la fin de parcours, tout simplement, pour Arnaud Lagardère? Vous savez qu'il a dû abandonner tous ses mandats exécutifs après sa mise en examen hier soir. On va en parler avec Mathieu Pechberti dans un instant. Et puis, bien sûr, avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, Audrey.
Et oui, alors on commentera aussi une bonne nouvelle avec eux. La France qui fait un peu plus de croissance que prévu au premier trimestre, 0,2%, nous dit l'INSEE. Et puis demain, eh bien c'est le 1er mai, c'est l'entrée en vigueur du reste à charge sur le CPF, les fameux 100 euros. Et puis on parlera de la sortie de Muriel Pénicaud, hein, qui veut réduire, elle, voire supprimer les aides à l'embauche pour les apprentis. Et c'est elle qui les avait mis en place au moment du Covid, rappelez-vous, en 2020.
C'est toute l'ironie de l'histoire, effectivement. Alors, qui seront nos experts dans un quart d'heure pour débattre de tout ça? Marc Landré pour Sia Partners sera là, ainsi que les journalistes Guillaume Duval et Emmanuel Kessler. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, comme tous les soirs.
Et tout de suite, c'est le journal. Ouais.
Good Evening Business, le journal.
Donc Arnaud Lagardère mis en examen, entre autres, pour abus de biens sociaux. Bonsoir Mathieu Pechberti. Ça, on l'a appris hier soir, beaucoup s'y attendaient. Par contre, ce que personne n'avait vu venir, c'est qu'il allait être interdit, du coup, de gérer le groupe. Conclusion, Lagardère n'a plus de patron depuis ce matin. C'est ça, Mathieu?
C'est vraiment une double déflagration, quelque part, hein. La mise en examen d'Arnaud Lagardère était effectivement attendue. Elle est sur deux volets, principalement. D'abord, l'abus de biens sociaux concernant ses sociétés personnelles, pour avoir utilisé l'argent de ses sociétés personnelles à des fins personnelles. Ce sont les sociétés qui sont directement actionnaires du groupe Lagardère. Et puis, il y a un autre volet qui concerne directement le groupe Lagardère, cette fois, où il est mis en examen pour les motifs d'abus de pouvoir, achat de vote, notamment pour avoir poussé, ou en tout cas influencé, le Qatar, à l'époque, c'était en 2018, a changé ses votes en Assemblée Générale. Alors évidemment, il conteste cette mise en examen, il va déposer un recours, il est évidemment présumé innocent en attendant la fin de l'instruction et le réquisitoire du parquet national financier. Mais la décision des juges d'instruction a été accompagnée d'une décision, elle, inattendue, qui est celle de l'interdiction de gérer, c'est-à-dire qu'Arnaud Lagardère, depuis hier soir, n'a plus le droit de gérer n'importe quelle société, donc notamment celle qu'il dirigeait. À la fois, il avait plusieurs fonctions qu'il cumulait au sein du groupe. À la fois, il était PDG de Lagardère, oui. PDG de la plus grosse filiale du groupe qui est Hachette, hein, Hachette Livre, l'éditeur, et puis une société qui dans laquelle est logé les radios sont logées pardon les radios du groupe Lagardère, et notamment Europe 1. Donc sur ces trois postes, il a dû se démettre de ses fonctions, en tout cas renoncer à ses fonctions en attendant la suite de l'instruction. Et donc chez Lagardère et chez Vivendi, hein, qui est propriétaire du groupe Lagardère, oui, maintenant, oui. Depuis pas mal de mois, c'est un petit peu la panique, car il faut maintenant trouver des remplaçants pour toutes ses fonctions.
Et le conseil d'administration dit qu'il va se réunir assez vite, hein, très prochainement, pour prendre les mesures provisoires dont on ne connaît pas encore la nature, bien sûr, mais
exactement. J'imagine que...
On va essayer de trouver très vite une solution pour pallier à cette absence momentanée, peut-être d'Arnaud Lagardère. Merci beaucoup Mathieu, puis on parle de tout ça avec nos experts, évidemment, jusqu'à 20h sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, je vous disais, ça a été la bonne nouvelle de la matinée. Finalement, la France a fait un petit peu de croissance quand même au premier trimestre. Plus 0,2%, nous a dit l'INSEE, qui, il n'y a pas si longtemps, prévoyait zéro. Apparemment, la consommation des ménages s'est un petit peu réveillée ces derniers mois, mais ça aussi, on en reparle bien sûr tout au long de la soirée sur BFM Business. Et puis, dans l'actualité, on voulait vous parler de ce gros accord qui a été conclu entre les pays du G7 aujourd'hui à Turin. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir Guillaume.
Gros accord parce qu'on s'est accordé sur un calendrier pour sortir cette fois, mais définitivement, du charbon, Alexandra. Hein.
Et ce sera pour 2035. Les ministres du climat, de l'énergie et de l'environnement du G7 se sont engagés à fermer progressivement leurs centrales à charbon d'ici là. Une première historique est la concrétisation des engagements pris à la COP28 à Dubaï sur la transition des énergies fossiles dans le monde. Cet accord pour le climat intervient après une longue bataille, Guillaume. La France voulait 2030, rappelez-vous. Le Japon, dont un tiers de l'électricité provient du charbon, ne voulait pas entendre lui parler de date butoir.
Bon, sauf que cette promesse, comme celle de Dubaï, elle est un petit peu incomplète. Il y a un mais quand même dans l'histoire, Alexandra. Hein.
Il faut lire l'ensemble des mentions l'intention du texte, un peu comme les petits astérisques sur les publicités. Cet accord ne concerne pas en effet toutes les centrales à charbon, seulement celles qui ne sont pas équipées de systèmes de captation de CO2. En clair, elles pourront continuer de fonctionner tant qu'elles démontrent que le CO2 émis par leurs activités est aspiré et stocké grâce à diverses technologies présentées par les industriels comme la solution à leurs émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'un programme des Nations Unies pour l'environnement établit que ces mécanismes ne permettent d'absorber qu'une partie très faible de ces émissions.
Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. 19h05 dans l'actualité, on voulait parler du Brexit ce soir parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, 30 avril, sont entrés en vigueur de nouveaux droits de douane sur certains produits qui entrent au Royaume-Uni depuis l'Europe. Vous l'avez compris, c'est le genre d'accord qui ne fait plaisir à absolument personne. Timo Marouzet.
2,34 milliards d'euros, c'est ce que devront payer les entreprises britanniques en plus pour importer des produits agricoles après l'instauration de ces nouveaux droits de douane. Des hausses qui se répercuteront sur les prix et l'inflation devrait donc gonfler d'encore 0,2 points de pourcentage d'après une étude de l'assureur Allianz. Pour Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et spécialiste de l'Europe, tout le monde est perdant avec ces nouveaux droits de douane.
C'est le Royaume-Uni qui est perdant. Ce sont les ménages qui sont perdants, mais globalement, c'est aussi, hélas, l'Union européenne, les exportateurs qui également vont voir éventuellement leurs exportations baisser à cause de ces taxes qui vont être imposées à l'intérieur, à l'entrée du Royaume-Uni.
Parmi les produits les plus touchés, la viande, le poisson et les produits laitiers. De son côté, le gouvernement de Rishi Sunak assure qu'il n'y aura pas d'impact significatif sur l'inflation, puisqu'en parallèle, une autre mesure du gouvernement suspend certains droits sur des produits non couverts par des accords de libre-échange et à la clé, une réduction des coûts d'importation de 7 milliards de livres.
Timothée Marouzet, puis dans l'actualité des entreprises, on y revient. On a beaucoup de groupes qui ont publié ce matin des chiffres sur le premier trimestre. D'abord Air France KLM, c'est pas bon. On est sur une perte d'un peu plus de 500 millions d'euros. Le groupe a cumulé les problèmes d'approvisionnement, un coup de mou aussi sur le fret. Et puis premier trimestre compliqué aussi chez Stellantis. Là, le chiffre d'affaires a baissé de 12% sur un an. Le groupe revoit, c'est ça qui inquiète, à la baisse ses objectifs de marge opérationnelle pour le premier semestre, carrément. Justine Vassogne.
Des ventes en baisse de 10% sur un an chez Stellantis, cela n'arrive pas tous les jours. Le constructeur a particulièrement souffert en Amérique du Nord, son principal marché, où ses livraisons ont chuté de 20% au premier trimestre. En Europe, le recul est plus contenu, moins 6%. Cette mauvaise passe est transitoire, assure la directrice financière qui explique que Stellantis est en train de renouveler sa gamme avec 25 lancements de véhicules attendus cette année. Pour l'heure, seuls 4 ont été commercialisés. Stellantis est dans un entre-deux. Une situation difficile qui le contraint à revoir à la baisse sa marge opérationnelle au premier semestre, entre 10 et 11%. Il prévient aussi que son cash flow sera bien en dessous de celui de 2023. Mais il mise sur une amélioration au second semestre et maintient tout de même ses prévisions. Avec ses lancements, Stellantis espère susciter l'envie de ses clients et compte bien continuer à travailler sa discipline financière. Nous ne serions pas Stellantis, a ironisé la directrice financière, si nous ne parlions pas de réduction de coûts.
Justine Vassogne, et puis dans l'actualité des entreprises, toujours grosse opération annoncée aujourd'hui dans le secteur des satellites. L'opérateur européen SES rachète pour quasiment 3 milliards d'euros son concurrent américain Intelsat. C'est peut-être un nouveau géant de l'Internet spatial qui va bientôt voir le jour. Jean-Baptiste Huettenon raconte ça.
Et de trois, la consolidation du secteur spatial se poursuit après les rapprochements de Viasat Inmarsat, Eutelsat OneWeb. Voilà maintenant SES Intelsat. Cela faisait un peu plus d'un an que les deux entreprises qui ont leurs sièges sociaux au Luxembourg discutaient. À L2, elle possède plus de 120 satellites géostationnaires, plusieurs stations terrestres de télécommunications, ainsi qu'une constellation de plusieurs dizaines de satellites en orbite moyenne. De quoi former l'opérateur spatial le plus puissant. La nouvelle entité est valorisée 5 milliards de dollars. Une fusion nécessaire, obligatoire même, pour résister face au rouleau compresseur SpaceX et son service Starlink, ou encore le projet de constellation Kuiper de Jeff Bezos. Car oui, face à la baisse régulière du marché de la télédiffusion, les opérateurs historiques comme SES, Intelsat n'ont d'autre choix que de chercher des relais de croissance dans la distribution de services Internet. SES Intelsat va ainsi devenir un opérateur multi-orbite, capable de jongler sur de nombreuses bandes de fréquences afin de répondre aux demandes d'un grand nombre de clients, gouvernements, marins, maritime, aviation, médias ou encore grand public.
Voilà, Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business de la fusion dans l'Internet spatial. Et puis il va peut-être bientôt aussi avoir une belle fusion dans le secteur bancaire du côté de l'Espagne, puisque BBVA, vous savez, deuxième banque du pays, BBVA a indiqué aujourd'hui qu'elle discutait d'un rapprochement avec la Sabadell. Ils en avaient déjà parlé il y a 3 ans, sans succès. Apparemment, l'opération serait de nouveau sur les rails. Affaire à suivre, comme on dit. 19h10 sur BFM Business. On retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui a encore terminé dans le rouge ce soir. Moins 1%. 7 984 points à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça se passe à Wall Street pendant tout ce temps?
Du rouge également, avec trois indices qui perdent environ 1% ce soir, avec la Fed qui est en train de se réunir, qui s'exprimera demain, qui est très attendue sur le calendrier de baisse de taux, et des statistiques qui n'ont pas été très bonnes par rapport à ces anticipations, avec hausse des salaires qui se poursuit aux États-Unis d'une façon plus importante qu'anticipée, des résultats d'entreprise qui sont bons, meilleurs que prévus. Quand vous regardez Coca-Cola ou encore McDonald's aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des croissances qui sont toujours très importantes malgré les hausses de prix. Mais le marché avait déjà anticipé beaucoup de ces nouvelles. Et quand vous regardez typiquement McDo ou encore Coca, le marché vend la nouvelle. Alors par contre, il y a un titre que le marché ne vend toujours pas, c'est Eli Lilly. Figurez-vous que c'est la 9e capitalisation mondiale. Typiquement, c'est plus gros que TSMC. Un groupe qui gagne 7% aujourd'hui, qui revoit à la hausse ses perspectives avec son traitement anti-obésité. Vous savez, c'est un concurrent américain de Novo Nordisk. Et vous avez une croissance qui est toujours très forte, avec notamment des traitements à plusieurs centaines d'euros contre l'obésité. Donc ça, c'est très rentable pour le groupe, et vous avez un titre qui gagne plus de 80% en l'espace d'un an. C'est énorme, avec aujourd'hui une capitalisation boursière qui est au-delà des 700 milliards de dollars. Et donc Wall Street qui est dans le rouge avant Amazon ce soir, demain la Fed, jeudi Apple et vendredi l'emploi américain.
Pas d'une fin de semaine sur les marchés. Bon, voilà. On se brasse avec vous évidemment.
Il n'y a pas de pont.
En long, en large et en travers. Non, il n'y a pas de pont en ce qui concerne les Américains. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h11, une petite pause et puis on vient avec Audrey Tcherkov et nos experts. On a beaucoup de choses ce soir. La France qui a quand même fait un petit peu de croissance. Allez, 0,2%. On va pas cracher dessus. Muriel Pénicaud qui a mis en place les aides à l'embauche des apprentis, qui dit aujourd'hui il faut baisser un petit peu la cadence. Et puis Lagardère qui n'a plus de patron depuis le retrait ce matin de son PDG Arnaud Lagardère. Est-ce que c'est la fin de parcours pour Arnaud Lagardère? C'est la question que tout le monde se pose. Ben nous, on les pose toutes ces questions jusqu'à 20h en direct. À tout de suite.
Good evening business, les experts du soir.
Allez, nous sommes repartis, 19h15 sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir.
Bien sûr, qui nous rejoint jusqu'à 20h comme tous les soirs. Et puis nos experts qui sont là. Heureux de l'être d'ailleurs. Emmanuel Kessler, bonsoir Emmanuel.
Très heureux.
Journaliste
bonsoir.
Économique. Guillaume Duval, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Ancien rédacteur en chef d'Alternatives Économiques. Et Marc Landré, consultant associé chez SIA Partners.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup. On a beaucoup de choses à voir avec vous, à commencer par ce qu'on a appelé la petite bonne nouvelle de la journée, finalement. Oui, la France qui a fait un petit peu de croissance au premier trimestre, finalement. 0,2%, nous a dit l'INSEE, qui, il n'y a pas si longtemps, prévoyait encore zéro, finalement.
C'est ça, et apparemment, c'est la consommation des ménages qui s'est un peu réveillée. En tout cas, écoutez Bruno Retailleau, ce matin, pour les Républicains, pour lui, forcément, il faut rester inquiet pour la France.
Si pour l'instant, pour le moment, on est passé entre les gouttes et on a échappé à la sanction des agences de notation. Mais en juin,
qui
juste après les Européens...
La solidité française, là aussi.
Non. Vous avez mal lu son propos.
Avec beaucoup d'attention.
Et elles ont indiqué qu'elles ne croient absolument pas au programme, à la trajectoire dite de stabilité du gouvernement. Elles pensent que c'est du pipeau, comme la Cour des comptes, comme le FMI. Et la France, malheureusement, n'échappera pas en juin, après les Européennes, je veux le dire aux Français, la France n'échappera pas à une procédure de sanction pour déficit excessif de la part de la Commission européenne.
Bon, après ça, qui est de qui une éventuelle procédure de sanction de la part de Bruxelles, franchement? Est-ce que ça serait pas la première? Ça serait pas la dernière, probablement? Non, je sais pas. Non, est-ce que vous dites que ce 0,2% valide peut-être en partie? Benel Le Chip tout à l'heure disait, le 1% de croissance de Bruno Le Maire, il est pas hors de portée, finalement, dans cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Landré?
C'est mieux que si c'était pire.
Merci.
Non, mais on est content. On va pas se réjouir, on va pas se lamenter sur un 0,2. Certes, ça aurait pu être plus. On attendait moins.
Ça aurait pu être moins.
On attendait moins.
Que ce soit l'OFCE, que ce soit l'INSEE, tout le monde prévoyait.
On prévoyait 0. Donc on est à 0,2. Maintenant, est-ce qu'on atteindra le 1% de croissance en fin d'année?
Il y a tellement
d'incertitudes sur les fondamentaux économiques du second semestre. Entre deux, et vous le voyez à mon t-shirt, il va se passer un événement qui s'appelle les Jeux Olympiques, qui peut être être un formidable booster de croissance en France. Et donc, le 0,7% de croissance dont on aurait besoin au second semestre, par trimestre, pour pouvoir atteindre l'objectif de 1% de Bruno Le Maire, il n'est pas effectivement inatteignable. Il est haut, il est élevé, hein, la pente est raide, mais on peut l'avoir.
Donc, objectif plus impossible. Et par ailleurs, je vous rappelle que si à partir de maintenant, on a une croissance qui est nulle, on part quand même avec un acquis de croissance du coup de 0,5 pour 2024.
Mais j'allais presque dire encore heureux, puisqu'avec tous les amortisseurs sociaux qu'on a en France, l'ampleur de la dépense sociale, des transferts, les aides du quoi qu'il en coûte, qui n'ont pas complètement disparu, finalement vers 0,2% de croissance, c'est pas extraordinaire et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il y a des périodes difficiles, on arrive un peu à les amortir. Mais après, c'est quand même pas une performance exceptionnelle. Et donc, on compare, parce que sur un trimestre, parce qu'on compare par rapport... On s'attendait à ce que ce soit un peu moins. Mais enfin, 0,2, ça a rien de génial. Et ça ne permet pas du tout de faire en sorte, ce qu'avait dit le gouverneur de la Banque de France très récemment, on ne peut pas compter sur la croissance pour résoudre nos problèmes de déficit. Et au-delà d'un peu du côté très politicien de la déclaration de Bruno Retailleau, c'est ça qu'il faut retenir de ce qu'il dit. C'est que ce n'est pas un pauvre 0,2% à ce premier trimestre, qui est effectivement bon à prendre, peut-être lié au fait que les Français ont un peu plus consommé parce qu'il y a un recul de l'inflation. Ce n'est pas ça qui va nous sortir de l'ornière en termes de déficit et dérapage des comptes.
Tout à l'heure, qu'entre les annonces des agences vendredi soir et ce petit chiffre ce matin, du côté de Bercy, c'est un peu caviar et champagne, là, quand même, d'un seul coup. Guillaume Duval, comment ça se
passe ? Caviar et champagne, attention, c'est un peu cher.
0,2%, oui, c'est un peu exagéré, mais bon, je partage tout ce qui a pu être dit sur, sur le niveau, l'appréciation qu'on peut y porter, emporter. Un des éléments clés, c'est malgré tout le recul très rapide de l'inflation, hein, comme ça vient d'être dit. Un des éléments essentiels pour l'avenir, c'est quelle leçon va tirer de ce recul de l'inflation la BCE. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec le niveau d'inflation qu'on a, les taux d'intérêt réels à court terme sont très élevés avec l'action de la BCE. Elle a une responsabilité maintenant importante pour consolider ce petit retour de croissance, non seulement en France, mais dans l'ensemble.
Enfin, est-ce que vous posez vraiment la question, Guillaume ? Enfin, c'est quasiment certain que le 6 juin, on aura une baisse des taux. Alors combien ?
Bon, ben,
ça, c'est la question.
Tant mieux.
Non, mais les indicateurs, en tout cas, vont... On le savait
avant ce petit rebond de la croissance.
Oui. Et quand même, il y a un élément inquiétant pour l'avenir. Alors peut-être que la baisse des taux interviendra et pourra booster ça, c'est que on a eu, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, les chiffres sur la construction, les mises en chantier, les permis de construire, c'est très mauvais.
La construction et le logement vont très mal.
Et construction, c'est-à-dire ce qui se construit effectivement, et même les permis de construire qui annoncent ce qui va se passer dans quelques mois. Donc on est sur des reculs de moins 20 jusqu'à moins 27% pour la construction de logements neufs sur un an. Voilà. Et donc par rapport à la moyenne qu'on avait avant le Covid. Donc là, on a un secteur qui est très sinistré, très pourvoyeur d'emplois. On a tendance à dire quand le bâtiment va, tout va.
Oui.
On a une crise immobilière et du logement. Peut-être que la baisse des taux va un tout petit peu corriger le tir, mais non, c'est quelque chose d'assez structurel et sur lequel la politique, je crois que Gabriel Attal avait parlé d'un choc d'offres, fait attendre ses décisions, ses mesures.
Voilà. Donc
c'est un peu quand même un angle mort de la politique gouvernementale.
Oui. Enfin, d'accord, mais je vous entends tout sur le fait que 0,2%, mais c'est pas la panacée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même le grand retour du consommateur, que enfin les salaires commencent à rattraper l'inflation avec son reflux, avec la baisse des prix, et que le pouvoir d'achat vient enfin soutenir la consommation. Et ce qui est aussi intéressant, Marc, c'est que c'est ce taux d'épargne. On est à 17,6%.
Qui reste anormalement élevé et dont on ne sait pas s'il sera en capacité de baisser si l'incertitude ne reflue pas. C'est le problème. Mais je trouve que, Audrey, ce qui permet de nuancer quand même notre relative enthousiasme, c'est les performances ailleurs en Europe. Parce que généralement, on dit que quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Mais là, c'est pas le cas. Puisque d'abord, le taux de croissance au premier trimestre dans la zone euro est supérieur à celui de la France.
Oui.
Là, certes, c'est identique en Allemagne, alors qu'on s'attendait pas à cette performance-là. Mais surtout, quand on regarde les pays du Club Med,
l'Espagne,
Italie et même Portugal,
avec des taux de déficit, qui eux se rapprochent des 3%, voire qui sont passés en dessous.
Et on regarde, qu'est-ce qui tire la croissance dans ces pays-là? C'est le tourisme. C'est le tourisme post-pandémique. Et également, en Allemagne, la construction. Des sujets sur lesquels on a du mal à s'aligner en France. Mmh. Et si la croissance de demain, c'est le tourisme, Vive les JO.
Bah oui,
voilà, c'est la construction. Bravo les JO. Vive le choc d'offre. Ouais. Et ben on a encore du boulot.
Est-ce que vous pouvez, 30 secondes chacun, puisqu'on était un peu sur les agences, comment vous interprétez les décisions de Moody's et Fitch? Est-ce que vous dites tant mieux, on a eu chaud? Vous dites, il aurait fallu être dégradé. Certains disent, ça aurait été peut-être opportun qu'on soit dégradé finalement. Guillaume, comment est-ce que vous avez regardé ces annonces de vendredi soir, vous, d'un mot de rappel?
Pas vraiment surpris, dans la mesure où quand même beaucoup d'éléments étaient très lié au Covid, etc., etc. Et c'est vrai que la France reste un pays solide, mais en même temps, se posant la question de savoir si ça va pas encourager le gouvernement à ne pas faire ce qu'il faut sur un certain nombre de choses, et en particulier à ne pas augmenter les impôts des plus riches, ce qu'il avait déjà tendance à ne pas vouloir faire. C'est avec le contexte qu'on vient de décrire, notamment sur une épargne excessive. Oui. Qui reste très importante. Il y a nécessité de faire des choses pour réduire les déficits publics français. Il y a nécessité de ne pas faire ce qu'il s'apprête à faire, c'est-à-dire de baisser les dépenses publiques, notamment parce que l'immobilier, le logement va mal, notamment aussi parce que on est très en retard à nouveau, on prend à nouveau du retard sur la transition énergétique, sur tout ce qu'il faudrait faire pour préparer l'avenir. Il risque de couper une fois de plus sur les dépenses qui sont nécessaires pour l'avenir.
Non, mais voilà,
de profiter de ce moment pour faire une politique une fois de plus négative pour le pays.
Sauf que ce qui se passe quand même, c'est que cette promesse qui est faite de la part du gouvernement aux agences de notation de ramener le déficit sous la barre des 3%, c'est assez antinomique avec la stimulation de la croissance et de l'investissement.
Oui, c'est contracyclique. Il se trouve simplement que, et c'est la raison pour laquelle Bercy ne changera pas de politique à court terme, c'est qu'il y a encore une agence qui doit se prononcer.
Oui. Le 30 mai, juste avant les européennes.
À 9 jours des européennes, et je dirais même, c'est la pire des agences. Parce que chez Standard & Poor's, on est en perspective négative. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, Standard & Poor's nous a dit, si les finances publiques de la France ne s'améliorent pas, je dégrade. Or, il se trouve qu'en 6 mois, elles ne se sont pas vraiment améliorées, bien au contraire.
Donc, vous anticipez...
Juste un point. Donc,
non, ma question, c'est est-ce que certains disent que ça aurait été peut-être opportun, finalement, sanitaire,
pédagogiquement,
hygiénique,
voilà, sur le plan de la rationalité, il n'y a pas de problème de solvabilité pour la France, et elle rembourse tout à fait correctement sa dette, et il n'y en aura pas demain. Donc, il n'y avait pas forcément de raison de dégrader sa dette, puisque c'est ça que ça mesure, les agences de notation. Ce n'est pas une note globale sur l'économie française. C'est est-ce que la France est un emprunteur sûr? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus, et tout le monde le connaît. Mais
sur le plan pédagogique,
c'est vrai que la décision n'est pas incitative. Alors, à sortir de cette espèce de quoi qu'il en coûte permanent qui marque l'économie française.
Oui, enfin ou pas, Emmanuel. On peut aussi se dire que c'était le dernier avertissement et qu'on a intérêt
de rentrer dans les rails. Standard & Poor's va faire en plus à une semaine des européennes, ça va être politiquement très intéressant.
C'est une des très grosses agences.
On suit ça de près.
Voilà, absolument.
C'est la plus grosse.
La plus grosse.
Allez, autre question. Faut-il réduire, voire supprimer les primes à l'embauche pour les apprentis? Alors, on parle notamment de la fameuse prime de 6 000 euros qui avait été mise en place peu après le Covid. C'est Muriel Pénicaud, en tout cas l'ancienne ministre du Travail, qui l'a suggéré ce matin, Guillaume, sur BFM Business.
Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est que celle qui les a mises en place, elle était 2020, mais elle l'a dit, ça devait être temporel. Et elle pense que même si on arrête aujourd'hui, les boîtes vont recruter et continuer à recruter, à former, parce que c'est vital pour beaucoup d'entre elles. Elles n'ont pas le choix. Écoutez Muriel Pénicaud ce matin.
L'argent public doit être incitatif. Je pense que pour continuer l'apprentissage, avec l'argent qui est mutualisé, les grandes entreprises vont le faire. Moi, si on peut tout garder, c'est très bien. Mais j'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème de déficit public. Et donc, je pense que si on ne peut pas tout garder, il faut mieux réinvestir sur la formation des cuisiniers, des aides-soignantes, aussi les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est aussi un ascenseur social. Aujourd'hui, 30% des jeunes en enseignement supérieur disent j'aurais pas pu sans l'apprentissage. Avant il fallait payer, maintenant je suis payé et ma formation est gratuite.
Bon, non, mais ces coupes dans l'apprentissage, ça fait partie des 10 milliards d'euros à chercher et c'est les premiers coups de rabot dans les
C'est une très bonne nouvelle, moi, je trouve. Oui, bien sûr. Donc la décision a été prise, hein, puisque ça va être valable à partir du 1er mai, prime de 6 000 euros, donc dans certains cas. Ben oui, parce que ça a été pris en 2020, donc dans une conjoncture particulière.
C'était censé être temporaire.
C'est censé être temporaire. Et le problème dans ce pays, c'est que quelque chose qui est censé être temporaire, on a le sentiment que c'est éternel et que dès qu'on le retire, c'est un drame pour tout le monde.
Pour pour les taxes et les impôts. Voilà.
ça va faire une économie de 250 millions d'euros. C'est ce que j'ai entendu cet après-midi de la part de la ministre Catherine Vautrin aux questions d'actualité au gouvernement.
Oui. 250, oui, alors...
Sur 4 milliards.
Sur 4 milliards, ouais, donc c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin de la politique d'encouragement à la...
Oui, mais c'était un effet d'aubaine pour beaucoup d'entreprises qui s'en servent.
Et c'est ce que dit Muriel Pénicaud. Donc, et ça rejoint quelque chose que dit un député qui est Marc Ferracci dans une tribune, à la tribune dimanche et puis dans Le Monde cet après-midi, qui est que quand on prend des mesures en dépenses publiques de soutien, il faut qu'il y ait ce qu'il appelle une clause d'extinction. C'est-à-dire qu'on soit en capacité au bout de 2-3 ans de voir ce que ça a donné et de se dire si c'est pas formidable ou si c'est pas optimal, on arrête. L'apprentissage, c'est très bien, mais on n'est pas obligé de mettre le paquet si on a des mesures qui peuvent être parfois des mesures d'aubaine. C'est un peu ce qui s'est passé à une échelle bien plus importante sur le crédit d'impôt recherche, où à force d'accumuler, on est arrivé à 7-8 milliards, mais on sait qu'il y a aussi des effets d'aubaine.
Sauf
donc,
que quand même, on a toujours rêvé que l'apprentissage
marche bien en France. On envoie un bon signal sans détruire la politique. Guillaume, et Muriel Pénicaud et la ministre ont raison de le faire.
Guillaume Duval, si on débranche tout du jour au lendemain, est-ce que les entreprises continuent d'embaucher, comme dit Muriel Pénicaud? C'est le pari de Muriel Pénicaud, en tout cas. Est-ce que c'est le vôtre?
Je ne sais pas s'il faut débrancher tout du jour au lendemain. Je pense que c'est de toute façon pas ce qui sera fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a assisté quand même à un peu un scandale de l'apprentissage en France ces dernières années. Hein. Donc il y avait une émission de télé qui a filmé dans des salons, etc., où on voyait des gens qui disaient pour le prix d'un CDI, je vous fais deux apprentis, quoi. Hein. C'était devenu un peu n'importe quoi quand même en France là-dessus. Donc oui, il faut corriger le tir. J'ajouterais que ça pose une question de fond plus large, qui est celle de l'emploi des jeunes. On continue à vivre sur l'idée que l'emploi des jeunes, c'est vraiment très grave, ils sont dans une situation difficile, etc., etc. C'est quand même de moins en moins vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème de l'emploi, c'est plutôt l'emploi des seniors.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont en chômage de longue durée de ce côté-là? Les jeunes générations d'aujourd'hui et sans doute celles de demain auront plutôt beaucoup moins de problèmes pour entrer sur le marché du travail que celles d'il y a 10 ou 20 ans. Hein. Donc il faut que les politiques publiques s'adaptent. Muriel Pénicaud dit aussi quelque chose de très intéressant, je trouve, et malheureusement je n'avais pas vu ça avant, mais qui est que dans le même temps, l'argent qu'on a donné pour les formations éducatives elles-mêmes, y compris des apprentis, a beaucoup diminué. Donc, si on
est passé de 8 000 à 6 000.
Si on utilise une partie de ces économies à mieux former les apprentis, par contre, là, on gagnera vraiment quelque chose.
Je précise quand même qu'il ne s'agit pas du tout de tout débrancher. Ce que l'on supprime, c'est cette aide de 6 000 euros quand on embauche un alternant de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. Donc, ça veut dire que les primes à l'apprentissage pour tous les autres restent en place.
Quand on a plus de 110% de PIB de dette, il faut réfléchir à l'efficience de la dépense publique.
Oui.
Et là, en matière d'apprentissage, c'est combien et comment ça sert l'emploi de ceux qui en bénéficient. Or, il se trouve que depuis 4 ans, depuis le plan Un jeune, une solution, où ces aides ont été mises en œuvre, l'apprentissage a surtout servi à développer le supérieur.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a l'alternance dans les supérieurs. Et la Cour des comptes a très bien montré l'année dernière que l'impact sur l'emploi était quasiment minime. C'est-à-dire qu'on avait dépensé des tombereaux de milliards d'euros
pour insérer
des gens qui ne se seraient insérés de toute façon
sans aide
à l'apprentissage.
Privé, supérieur.
Et donc là où c'est intéressant, et là où Muriel Pénicaud a raison, c'est
effectivement nourrir des établissements d'enseignement privé.
Sur les CAP et sur le bac professionnel.
C'est ce qu'elle dit d'ailleurs,
Est-ce que vous avez entendu parler de la poursuite de la réforme du bac pro qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron? Il y avait une ministre, Carole Grandjean, qui était chargée de mettre en œuvre la réforme du bac pro, des lycées professionnels,
ça a disparu.
À l'image de ce qui a été fait pour l'apprentissage. Ça a disparu. On en parle.
Elle est encore ministre, non?
Non, elle est plus ministre. Elle est DRH d'État. Elle a quitté.
Oui, c'est ça. Comme beaucoup de ministres qui vont faire carrière dans le privé.
On en reçoit souvent sur
ça. Ça manque un peu de suivi, quoi. Mais c'est quand même un signal. Et effectivement, le rapport de la Cour des comptes était très significatif.
Dont acte. 19h30 sur BFM Business.
BFM Business. L'info éco.
Allez, 19h30, je vous redonne les grands titres rapidement de l'actualité. Donc, bonne nouvelle de la matinée. Finalement, la France a fait un petit peu de croissance quand même au premier trimestre, plus 0,2%, nous a dit L'INSEE, apparemment, c'est la consommation des ménages qui s'est un petit peu réveillée au cours de ces derniers mois. L'action Stellantis qui perd 10% ce soir à la Bourse de Paris. Stellantis qui a annoncé ce matin une baisse de 12% de son chiffre d'affaires au premier trimestre sur un an. Le groupe, et c'est ce qui inquiète les marchés surtout, revoit à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour le premier semestre de l'année 2024. Une énorme opération annoncée aujourd'hui dans le secteur des satellites. L'opérateur européen SES rachète son concurrent américain Intelsat pour un peu moins de 3 milliards d'euros, ce qui va lui permettre de rivaliser un peu avec les constellations américaines en vogue, Starlink côté Elon Musk et Kuiper côté Amazon. Et puis le groupe Lagardère n'a donc plus de PDG depuis ce matin, puisqu'Arnaud Lagardère a annoncé qu'il abandonnait ses fonctions après sa mise en examen hier soir. Le conseil d'administration, dit le groupe, se réunira très prochainement afin de prendre toutes les dispositions provisoire. Fin de citation. 19h32, nous revenons bien sûr dans un instant.
Et oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, on continue sur ce sujet du rabotage dans les aides publiques avec Marc Landré, Emmanuel Kessler et Guillaume Duval et Guillaume Paul évidemment. Faut-il le préciser? Bon, alors c'est fait. Il va donc y avoir du changement à partir de demain, 1er mai, en ce qui concerne le compte personnel de formation. Désormais, quand on voudra faire une formation, il faudra payer 100 euros de sa poche. Ça, c'est nouveau et le décret entre en vigueur donc demain.
Oui, alors précisons que ça ne concerne pas les demandeurs d'emploi qui, eux, seront exonérés de payer les 100 euros. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent entamer une formation, il faudra un reste à charge de 100 euros. Ce qui fait hurler les syndicats, notamment, Guillaume. Est-ce que vous considérez qu'il faut ce reste à charge de 100 euros? Ne serait-ce dit certain que pour responsabiliser un petit peu ceux qui entament une formation? Comment est-ce que vous regardez ça?
J'ai toujours considéré que cette réforme dans son ensemble, qui visait d'abord et avant tout à individualiser la question de la formation professionnelle, à en faire un choix personnel et à le retirer des négociations collectives et du cadre collectif des entreprises, était en soi quelque chose de problématique. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des dérives autour de ça, que ça aboutisse, qu'il y ait des marchands de soupe qui réussissent à en tirer profit,
etc. De moins en moins, quand même, mais l'État...
Non, mais quelques effets d'aubaine.
Oui, bien sûr. Donc oui, il y a certainement moyen et nécessité de raisonner les choses. Sur des sujets comme les permis de conduire, par exemple, je suis en revanche moi très sceptique. C'est-à-dire que je pense que ça reste un outil en particulier pour les demandeurs d'emploi, pour un certain nombre de gens qui restent très liés à la question de l'emploi et de l'accessibilité à l'emploi. Moi, j'ai toujours été très favorable à ce qu'on apprenne à conduire dans les écoles, qu'on dise que ça fait partie du cursus que chacun devrait apprendre dans l'école publique. Mais c'est pareil un petit peu pour la formation continue. Donc oui, il y a des choses à mettre un peu au carré, mais je pense que c'est la logique d'ensemble de cette réforme.
Oui, parce que on veut dissuader les demandes de formation qui sont pas forcément nécessaires dans le cadre professionnel. Et c'est vrai que la demande de permis moto, je précise moto, arrive en deuxième formation la plus demandée quand on a déjà une voiture. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'évidemment, ça coûte cher tout ça.
Oui, on est sur l'anecdotique. On est sur l'écume de la réforme.
Pas tant que ça, regardez les chiffres, la moto, ça va très vite la voiture.
Reprenons l'origine de la réforme. La réforme, c'était de permettre à chaque actif d'être acteur de sa formation professionnelle, de pouvoir choisir en transformant des points en euros. Oui. C'est un formidable succès, ça a marché. Moi, j'y croyais pas. Et pourtant, qui est allé acheter des formations? Des gens qui ne se formaient pas avant. Oui. On est allé dans les PME, là où il n'y avait pas de formation, dans les TPE, là il n'y avait pas de formation, et sur des gens qui étaient peu qualifiés, ont pris des formations diplômantes.
Mais alors ça marche trop bien, et c'est bien pour ça que ça coûte trop cher.
On devrait au contraire s'en dire, pour une fois qu'il y a un dispositif public qui marche, et que l'argent est bien utilisé, parce que je suis d'accord avec Guillaume, je veux dire, le permis voiture est un formidable frein à l'emploi quand on ne l'a pas. Et que c'est pas un hasard si c'est la première formation.
Mais vous avez dit que pour les chômeurs, ça va rester pris en charge.
Et notez, parce qu'on a parlé juste avant de Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, c'est elle qui a fait la réforme du CPF. Et aujourd'hui, elle est la première à critiquer la réforme d'Emmanuel Macron qui vise justement à en réduire l'accès. Parce que c'est contraire à la philosophie de la loi qu'elle a portée en 2018.
Alors, juste un point. Moi, je sais pas, mais j'ai reçu, 20, 30 coups de fil d'organismes qui disent, vous savez, vous avez un CPF,
ah,
vous savez,
ah oui, ah bah non, etc. Attendez,
donc, ça suscite quand même, comme toujours quand il y a ce genre de dispositif, des appétits de la part d'organismes intermédiaires qui peuvent, du coup, bénéficier indirectement de la subvention qui est faite à celui qui va recourir à la formation. Mais donc, oui, on a quand même, je pense que le gouvernement a un peu légitimement contrôlé un peu ce dispositif et un reste charge de 100 euros, à partir du moment où les chômeurs en sont exonérés, ça me paraît pas violent. On condamne pas le dispositif. 100 euros, c'est peu sur le coût global d'une formation.
Oui, et voilà. Par ailleurs, c'est
pas mal, je trouve, de s'habituer à ce qu'il y a un reste à charge.
Et c'est aussi plus doux que si ça avait été un reste à charge calculé en termes de pourcentage. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça va rapporter donc 250 millions d'euros cette année, et en année pleine, 375 millions d'euros. Parmi le milliard d'euros qui doit être économisé sur l'emploi, c'est pas mal.
C'est pas mal, surtout quand on sait qu'on a des poches de pénurie d'emplois où on a un problème de compétences, et c'est via la formation et pas via la réforme de l'assurance chômage en réduisant les droits des chômeurs qu'on arrivera à pourvoir ces métiers pénuriques. Ouais. Donc on a encore l'impression, même si je suis d'accord avec toi Emmanuel, on est sur c'est pas grand chose, c'est bien d'habituer les gens à avoir du reste à charge, ça responsabilise, c'est comme pour les franchises des boîtes de médicaments chez le médecin ou à l'hôpital, très bien. Mais on a l'impression qu'on fait plus les poches aux patients qui a un peu de blé parce qu'on en a trop, il y en a trop donné et qu'on sait pas comment le reprendre. Donc c'est ça, je veux dire, et on est en train, on fait les poches de tout le monde aujourd'hui. Et pour une fois, on a une réforme qui fonctionne, et je rappelle, je le redis, ce n'était pas la philosophie originelle de cette réforme portée par Muriel Pénicaud.
Mais c'est dommage. Je pense que tous les secteurs vont morfler à un moment donné, parce qu'il faut trouver 20 milliards d'années.
Tous les secteurs et tous les ministères.
Et 25 milliards l'année prochaine, c'est ça. Donc, ce qui était un truc que la France n'a jamais fait à cette vitesse-là.
Ceux qui se frottent les mains, en tout cas, ce sont les écoles de conduite, parce qu'on dit que beaucoup se sont inscrits en catastrophe avant l'apparition de ce décret dans les écoles de conduite pour passer le permis moto avant que l'État mette le holà, parce qu'on ne pourra plus faire les deux, on pourra plus cumuler les deux désormais.
Le permis bateau, on peut aussi, non ?
Bateau, je ne sais pas. Si je justifie de reconversion professionnelle, pourquoi pas, je ne sais pas. On voulait dire un mot de cette étude très intéressante de la fondation... comment s'appelle la fondation ?
Travailler autrement.
Travailler autrement, voilà. C'est Marc Landré, rendons-lui hommage, qui nous a soufflé aujourd'hui. Cette étude sur ceux qu'on a appelés les travailleurs de la première ligne au moment du Covid. Les invisibles, comme on les appelle. Alors, de qui est-ce qu'on parle ? Les caissiers, livreurs, éboueurs, agents d'entretien, vigides, aides-soignants, ouvriers agricoles... 11 millions de salariés.
Un tiers d'actifs. Tiers des actifs français.
À qui on promettait, rappelez-vous, au moment du Covid, les mois suivants, des jours meilleurs. Sauf que l'étude nous le dit, 4 ans après, ils sont retombés dans l'animal plus complet. C'est ça, Marc, finalement.
Ils sont retombés dans l'animal plus complet. Et surtout, ils multiplient, ils cumulent un certain nombre de contraintes. Des contraintes économiques, des contraintes en termes de souffrance au travail, des contraintes en termes de gestion de temps, de vie professionnelle, vie privée, en termes de garde d'enfants, en termes d'accès à la culture, en termes de mobilité sur le territoire, enfin toutes les contraintes que l'on peut connaître, ils les cumulent, ce qui fait qu'on a quasiment une population qui représente un tiers des actifs français qui est sur le point de faire sécession. C'est-à-dire que leurs contraintes sont telles qu'aujourd'hui, ils ne sont plus considérés, ils ne sont plus visibles et ils sont à part dans la société. Ils sont à part dans la société et ils ne voient pas comment demain leur sort peut être amélioré. Alors l'avantage de cette étude, c'est qu'elle met des chiffres, qu'elle met des noms, qu'elle met des problèmes sur une population qu'on ne voit plus et qu'on a applaudi. Pendant le Covid, parce qu'ils nous ont permis à nous, les nantis qui télétravaillons à l'époque, de pouvoir aller faire nos courses, de pouvoir nous déplacer quand on en avait besoin, je veux dire, de pouvoir faire les aides-soignants dans les hôpitaux. Ouais. Enfin, ce sont toutes ces personnes-là qui sont essentielles. D'ailleurs, c'est pour ça que cette étude elle a été rebaptisée d'invisible en essentiel. Et ce sont des gens qui sont essentiels à la vie économique et pourtant,
on ne leur rend pas hommage. Du quotidien.
Exactement. Et les autres sont dénommés les préservés. Donc il y a d'un côté les invisibles et peut-être pas forcément les nantis, mais en tout cas les préservés. Il y a un chiffre aussi qui m'a interpellé, c'est que sur 10 femmes en situation monoparentale, il y en a 7 sur 10 qui font partie de ces invisibles. C'est-à-dire qu'on voit que cette situation difficile se trouve encore plus fréquemment dans ce type de famille. Donc il y a un déterminant social qui est très important.
L'autre chiffre qui est important, celui des salaires. Ces invisibles travaillent en moyenne 10% de moins que les autres actifs. Ils gagnent 32% de moins chaque mois. Qu'est-ce qu'on a raté il y a 4 ans quand on a dit ces salariés vont être pris en considération? Il y aura des jours meilleurs, Guillaume Duval, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé?
D'abord, je voulais vous féliciter d'avoir mis ce rapport débat.
Marc qui a toujours des bonnes idées.
Mais effectivement, oui, il y a un sujet énorme qui est assez largement aussi celui du SMIC en France. Mais ce gouvernement, il suit pas. Il ne fait aucune politique qui permette d'améliorer cette situation. Hein. Donc depuis 7 ans que Emmanuel Macron est là, il n'a jamais donner un coup de pouce au SMIC, c'est-à-dire augmenter le SMIC au-delà du strict minimum légal. Gilles Berset, qui était son grand conseiller sur ce sujet-là, s'est toujours beaucoup battu pour éviter qu'on augmente le SMIC.
Le SMIC a quand même augmenté de combien ? 12-13% en l'espace de...
Oui, plus que le salaire moyen, bien plus que le salaire moyen.
C'était le salaire moyen, l'inflation, etc. Et l'autre chose, c'est que il est question aujourd'hui, alors je ne sais plus où ça en est dans les projets du gouvernement, parce qu'il en a beaucoup dans ce domaine, mais de remettre en cause, justement, ce calcul du SMIC. Hein. Donc, ce gouvernement considère que ce SMIC est encore trop élevé en France. Par ailleurs,
c'est pas tellement ça, c'est qu'il y a un risque de smicardisation de la société.
Ce gouvernement a aussi une responsabilité très lourde dans la smicardisation de la société au travers des exonérations de cotisations à proximité du SMIC et du fait que les cotisations sociales montent ensuite très vite après le SMIC, ce qui fait que non seulement on embauche les gens au SMIC, mais après ils y restent. Donc là, il y a un sujet salaire. C'est vrai qu'on aurait pu penser après 2020 qu'on avait pris conscience et qu'on allait faire quelque chose. On n'a rien fait. Il y a un sujet conditions de travail, sur lequel on a fait un petit peu quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'entreprises où on fait passer les gens de ménage pendant les heures de bureau qu'il y a quelques années, etc. Il faudrait en faire davantage sur ces questions-là. Enfin, derrière, il y a toute une question de politique familiale et sociale, notamment sur les familles monoparentales. Mais là, je dois dire que dans le contexte d'aujourd'hui, avec ce que le gouvernement nous prépare sur les dépenses sociales, on n'est pas en train d'améliorer
pourtant,
la situation de ces familles monoparentales et de ces femmes.
Non, mais on sait justement que la structure du foyer, c'est un vecteur d'inégalité absolument terrible, que les familles monoparentales sont beaucoup plus vulnérables que les autres. Et je voulais rebondir sur le chiffre qu'a cité Emmanuel. Donc c'est 25% des familles françaises qui sont monoparentales et 82% de mères. Mais ça, on le sait depuis si longtemps et rien n'est fait.
Prenez les Restos du Cœur, l'association dont je suis proche. Vous avez quand même la moitié des personnes qui vont au Resto du Cœur qui sont des familles monoparentales, des femmes avec des enfants seuls. Donc c'est pas nouveau. C'est cette fracturation de la société, elle n'est pas nouvelle.
Non, mais elle se renforce.
Elle se renforce, elle ne diminue pas.
Voilà.
Elle ne diminue pas. Et surtout, je trouve qu'au-delà des chiffres et des exemples qui sont donnés dans ce rapport de la Fondation Travailler Autrement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la fracturation qui poindre. C'est-à-dire qu'on voit qu'on va arriver à une zone de non-retour. On a fait beaucoup de discours, on a fait beaucoup de promesses. Certaines, notamment pour les personnels du soin, avec le Ségur de la Santé, ont été tenues.
On commence à mettre les branches à contribution.
Mais là, on arrive vraiment à un moment où il y a un véritable décrochage et une partie de la population qui s'apprête à faire sécession. On a eu les gilets jaunes, donc
c'est ce que j'allais dire.
Les invisibles.
Mais les gilets jaunes, on a mis quand même 14 ou 18 milliards sur la table.
Ça a
donc
pas suffi.
C'est pas normal. On a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid.
Bah,
et malgré tout, on se retrouve 4, 5, 6 ans après avec cette même situation.
C'est pas qu'une question de moyens.
Probablement.
C'était un peu sur le même genre de sujet. C'est-à-dire que je crois que la montée des extrémismes, la montée du RN, etc., n'est pas du tout déconnectée de ces sujets-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se sentent pas représentés aujourd'hui, ni sur le plan politique, ni sur le plan social par les syndicats tels qu'ils
votent, qui sont et qui votent extrêmes, majoritairement.
Allez, transition pas évidente.
Oui, alors un dernier sujet à l'ordre du jour. Ah. Le groupe Lagardère n'a donc plus
de PDG. On n'est pas dans le même niveau de revenus, là.
Non, c'est clair. Depuis ce matin, donc Arnaud Lagardère a annoncé qu'il abandonnait ses fonctions opérationnelles et l'ensemble de ses mandats après avoir été mis en examen hier. Est-ce qu'on peut parler de fin de parcours, Guillaume Duval?
Moi, j'aime beaucoup Arnaud Lagardère. J'espère qu'il restera dans le paysage médiatique, en tout cas encore un petit peu, parce que c'est vraiment une publicité ambulante pour un taux de 100% sur l'impôt sur l'héritage.
C'est vrai. Vous disiez bien que c'était pas.
Il
y avait une vache.
Je sentais bien aussi le coup.
Jean-Luc Lagardère était un entrepreneur tout à fait remarquable, capable d'agir dans des secteurs très différents, de l'automobile, l'armement, les médias, etc., etc. Il avait construit un énorme groupe. Il a suffi qu'il le laisse à son fils pendant 20 ans pour qu'il n'en reste plus rien. Et qu'il démontre suffisamment que le génie entrepreneurial n'est pas héréditaire, et que donc dans ces conditions, il vaudrait mieux effectivement passer la main à d'autres quand il y a une succession.
Non, mais c'est quand même très triste. Enfin, c'est un fleuron français.
Oui, on est racheté par le groupe qui appartient maintenant au groupe Vivendi. Oui. Donc il y a les branches qui sont florissantes vont continuer de l'être. Je pense par exemple à toute la partie retail, vente, presse à l'étranger, les relais H, etc., les
Hachette.
Aéroports, voilà, qui est groupe d'édition Hachette. Mais c'est vrai que ça se fera sans Lagardère, parce que là, bon, on va voir. Présomption d'innocence, on peut pas préjuger. Il reste quand même qu'il y a eu deux signalements, un de l'autorité des marchés financiers, l'autre du gendarme des commissaires aux comptes, là, qui s'appelait le H3C, ça a changé de nom.
D'ailleurs, il y en a deux commissaires aux comptes qui sont mis en examen.
Et des commissaires aux comptes qui ont été sanctionnés. Ouais. Donc, ça, c'est des éléments factuels, quelles que soient après les conclusions que tirera la justice. Donc, des faits suffisamment sérieux pour que, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, non seulement il y ait mise en examen, mais demande de retrait, c'est-à-dire impossibilité qui est faite à Arnaud Lagardère de gérer ses entreprises.
Oui. Ce qui est tout à fait inédit.
Ce qui, semble-t-il, encore une fois, j'ai écouté Mathieu Pechberti sur la antenne, a même surpris le groupe Vivendi lui-même, qui va devoir trouver des solutions de remplacement, ce qu'il trouvera forcément.
Qu'est-ce qu'on dit d'Arnaud Lagardère au crépuscule, semble-t-il, de sa carrière, finalement?
C'est une succession
innocent.
Il n'a pas été déclaré coupable. Et même si aujourd'hui la justice et la justice médiatique ou la justice populaire a tendance d'être présumé coupable avant d'être présumé innocent, pour l'instant, il n'a pas été condamné.
Bien sûr.
Cela dit, et c'est et au-delà du sort qui lui est réservé à titre personnel, c'est vrai qu'il y a une nouveauté dans cette mise en examen, c'est l'interdiction de gérer. C'est ça. Et en vérité, si Arnaud Lagardère ne peut plus être PDG de son groupe, c'est parce qu'il en est empêché, pas parce qu'il le décide. C'est parce que la justice, en le mettant en examen, après avoir payé une caution de 200 000 euros, lui dit « tu ne peux plus exercer comme PDG de ton groupe ». Donc en vérité, cette décision, elle n'est que la conséquence de la mise en examen juridique.
Mais c'est intéressant, parce que plusieurs capitaines d'industrie ont souhaité sûrement sa tête à maintes reprises, et finalement c'est la justice qui s'en charge.
Bon tact.
Tiens, écoutez Bernard Arnault qu'on écoutait tout à l'heure, c'est pas tout jeune, c'était le 1er décembre 2020 sur BFM Business. Bernard Arnault a remporté la veille un BFM Awards, BFM du prix du manager de la décennie. Il est au micro de Christophe Jacubizine pour en parler. Et Christophe l'interroge aussi sur ce qui était une activité récente, c'est qu'il vient de monter à 15% du capital de Lagardère. Et Christophe Jacubizine lui dit, mais pourquoi vous êtes monté à 15%? Et Bernard Arnault, vous allez écouter, dit, je l'ai fait bien sûr pour Arnault, mais je l'ai fait aussi pour son père Jean-Luc, écoutez.
Pour aider Arnaud Lagardère, parce que Jean-Luc, son père, était mon meilleur ami. Nous jouions au tennis toutes les semaines ensemble. J'ai été absolument désolé de le voir partir si vite, et de manière inattendue. Je ne s'y attendais absolument pas. Et il m'avait dit, s'il m'arrive un jour quelque chose, et si Arnaud a des problèmes, essaye de t'en occuper.
Et ça n'aura pas suffi.
Non. Qu'est-ce qu'on dit d'Arnaud Lagardère? Il a voulu mener sa propre aventure. Il vend les parts du groupe dans EADS. Il se lance dans le sport business. Bon, puis sans les résultats escomptés.
Quand on est un grand chef d'entreprise, rien ne dit que ses enfants le seront. Voilà, il y en a qui ont de la chance dans les grands capitaines d'industrie aujourd'hui en France. Mais là, visiblement, on a quelqu'un qui n'a pas su ou qui n'a pas voulu. Ça
relève de
la psychologie.
Vous dites que
ça souligne quand même la fragilité de quand on construit un grand groupe d'industrie, un grand groupe d'entreprise. Ouais. Ça reste un élément fragile. Et le leadership, la personnalité du dirigeant est quelque chose. Parce qu'on conteste parfois les rémunérations des dirigeants.
Oui.
Mais quelque part, ça vient récompenser aussi un vrai savoir-faire, une vraie intuition, un vrai métier, une vraie capacité de mobilisation et une vraie stratégie, ce qui a probablement manqué à
Arnaud
Lagardère.
Ouais.
Voilà pour ce dossier Arnaud Lagardère qu'on va suivre bien sûr au jour le jour sur BFM Business. Allez, 3 minutes avant la fin de cette émission, c'est l'extra time comme tous les soirs. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission. Guillaume, allez, Guillaume Duval, est-ce que vous voulez commencer? 30 secondes.
D'accord. Moi, c'est une statistique qui a attiré mon attention, c'est la statistique des exportations chinoises de machines-outils. On s'intéresse beaucoup aux voitures, aux PV, etc., etc., mais on s'intéresse peu et pas suffisamment, je crois, aux machines-outils. C'est-à-dire qu'elles ont triplé en 10 ans sur les 10 dernières années. Ouais. Donc la puissance industrielle, ça se caractérise, à mon sens, surtout par le fait qu'on maîtrise ce secteur-là, les machines pour... Ouais. L'industrie elle-même, c'est ce qui avait fait la force de l'Allemagne jusque-là, oui. C'est ce qui risque de faire durablement la force de la Chine maintenant.
Ça partait de l'Allemagne vers la Chine, là c'est l'inverse apparemment, voilà. Le mouvement est significatif, absolument. Voilà pour le coup de gueule, ou le coup de cœur, donc c'est un coup de gueule plutôt.
Un peu des deux.
Un peu des deux finalement.
Projecteur.
De Guillaume Duval, ce soir.
Projecteur. Oui, petit coup de griffe quand même au président de la collectivité d'Alsace, qui s'appelle Frédéric Bierry, qui demande à devenir une région autonome, indépendante du Grand Est, parce qu'évidemment il est à côté de la Lorraine, puis c'est vrai que cette région Grand Est, elle est un peu mal foutue. Alors théoriquement, Emmanuel Macron a dit non, mais il insiste, il avait même consulté sa population, même si c'est sans valeur juridique. Et on est à deux jours de la présentation par Éric Woerth de son rapport sur la nouvelle étape de la décentralisation.
On va en parler, oui.
Il est clair que si on va dans ce sens-là, on va poursuivre dans ce qu'on appelle le millefeuille territorial,
oui.
Et c'est pas générateur d'économie, donc surtout ne pas le faire.
Voilà, le coup de gueule d'Emmanuel.
Ouais, le message est passé. Pour clore le bal, Marc-Landré.
Marc Landré.
Moi, initialement, je voulais vous parler d'un film qui était Les Leroy, Nous les Leroy, je vous invite à aller le voir, mais je vais vous parler des JO. Alors, j'ai un t-shirt que je n'ai pas le droit de montrer pour cause de droits télévisés, mais dans une semaine, la flamme olympique revient en France.
Déjà.
Ça fait 100 ans que la flamme d'été n'était pas arrivée en France. C'est un formidable phénomène. Alors, on est français, donc on critique les JO, on dit que ça va être un bordel sans nom, mais ça reste une immense fête populaire avec un rayonnement de la France à l'international. Et je vous invite à regarder la flamme olympique qui remontera des tréfonds à Villefranche-sur-Mer. Le 18, elle sera remontée par Alice Modulo, l'apnéiste, de 40 mètres de profondeur. Et ça, c'est inédit, formidable. Bravo les JO. Merci, Tony Estanguet.
Bravo pour ce plaidoyer.
Vous avez vu comme le dispositif de sécurité qui va entourer le parcours de la flamme olympique jusqu'à Paris, c'est quand même assez impressionnant.
Hein, ouais.
Il y a les moyens.
Mais c'est une fois tous les 100 ans.
Mais c'est une fois tous les 100 ans, effectivement. Merde. On verra pas ça dans 100 ans, a priori.
Donc arrêtons de râler.
C'est absolument,
exactement.
Arrêtons de râler.
Merci.
Nageons dans la Seine.
Merci, messieurs. Ah oui, alors la Seine.
23 juin.
23 juin.
La date est prise.
Ouais, on regardera ça aussi. Merci, messieurs. Marc Landré, consultant associé chez Sia Partners. Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d'Alternatives Économiques et le journaliste économique Emmanuel Kessler. Merci, messieurs, d'être venus. 19h55, c'est fini pour ce soir.
Oui, c'est passé très vite, comme tous les soirs. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver et ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, il est là. Et sinon, évidemment, c'est bfmbusiness.com, les plateformes, en replay, en podcast, tout ce que vous voulez.
Et nous, on se retrouve bien sûr
demain soir.
Non, pas demain soir, demain soir.
Ah non, vous avez raison, jeudi soir.
Demain, on va défiler, ça se passe comme
voilà.
Ça. On revient jeudi, évidemment, pour de nouvelles aventures. 18h. Ah bah le Muguet, il faudra revenir jeudi, c'est pareil.